BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. Aujourd'hui, on parlera de la distribution de la presse en France et des difficultés que rencontre Presstalis avec la PDG du groupe Michel Benbunan. Et puis avec Benoît de Florian, Chief Strategy Officer chez Ogilvy Paris, et Valérie Sacriste, chercheur spécialiste en sociologie des médias et de la publicité, on décryptera la toute nouvelle pub Perrier, remake d'une pub vieille de 30 ans. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Julien-Henri Maurice, directeur marketing et digital de Bazarchi. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et avec nous cette semaine pour les news, Elisabeth Hu. Bonjour Elisabeth. On commence avec cette campagne très vintage pour le coup de Kézak qui renoue avec la réclame d'antan.
Nouvelle signature, nouvelle campagne au graphisme à l'ancienne, signée par l'agence Change. Place à la douceur de vivre, à la nature. Désormais, Kézak se présente comme l'eau vraie de Lozère. Sur une affiche, une bouteille fait de la balançoire devant des paysages vallonnés, verdoyant et vide de gens, avec ce slogan « Kézak, toujours pas de gratte-ciel depuis 1901 ». Une publicité qui surfe sur l'envie de se ressourcer à l'opposé du rythme de vie moderne.
Alors, autre pub dans un tout autre genre, très décalée également, celle qui fait la promo des nouveaux jeans éco-responsables de la marque Bonobo.
Et pour accompagner ces nouveaux jeans, Bonobo lance un petit film complètement décalé, signé par l'agence Steve, où l'on découvre que ce qui est le plus écolo n'est pas toujours ce qu'on croit. Un homme présenté comme au contact de la nature, tient dans sa main une banane, ou plutôt tient son smartphone, dont la coque de protection a le look d'une banane. Plus loin, une femme au contact de la terre, allongée sur du gazon, qui s'avère être synthétique. Et le clou final, c'est une femme qui jardine et retire un jean de son bac à plantation. Une campagne 100% digitale pour les plateformes vidéo et les réseaux sociaux.
Et puis finit le célèbre crocodile Lacoste qui orne les produits de la marque depuis 1927. Il cède la vedette à 10 animaux qui sont en voie d'extinction.
C'est le temps d'une série très limitée, 1775 polos au total, pour 10 espèces menacées mises à l'honneur. Pour chaque espèce, le nombre de polos correspond au nombre de spécimens encore présents dans la nature. 30 pour le marsouin du Pacifique, c'est un cétacé. 450 pour le cyclure de l'île Anagueda, qui ressemble à un iguane. Une campagne réalisée avec l'Union internationale pour la conservation de la nature et l'agence BETC.
Ouais, Frédéric Roy, j'ai l'impression que les marques de plus en plus prennent la parole sur des sujets de société quand même.
Oui, elles ont besoin de se faire accepter, de montrer qu'elles font partie du vrai monde. Et ensuite, la question, c'est de savoir si ça a une réelle efficacité, mais supposons que oui.
On va en reparler de toute façon tout à l'heure avec Valérie Potin sur un tout autre sujet. Merci, Elisabeth.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Michel Benbunan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la PDG de Presstalis, qui s'occupe de distribuer la presse en France. Vous êtes en poste depuis novembre dernier, avec pour mission de redresser cette entreprise. Vous venez d'annoncer un plan de sauvegarde de l'emploi. Je crois qu'il y a 200 à 300 suppressions qui seraient envisagées. Est-ce que vous attendiez d'abord à une telle situation quand vous avez pris les rênes du groupe?
Non, pas vraiment, en fait. J'ai été chassée à fin juillet 2017. Les conseils d'administration avaient sorti le management précédent parce que effectivement ils pensaient que les résultats allaient être moins bons que ceux qui étaient annoncés. Mais enfin, à l'époque, on était à un résultat qui était légèrement négatif. Et en fait, le résultat que j'ai découvert quand je suis arrivée et que j'ai commencé à ouvrir un certain nombre de placards était de moins 20 millions d'euros, donc très 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 différent de ce qui était annoncé, avec un vrai trou de trésorerie qui n'était pas du tout de cette ampleur quand moi je suis quand j'ai été sollicitée en mois de juillet.
Justement, c'est ce qui vous a contraint à retenir une partie de l'argent que vous deviez verser à vos clients. Quelle est la situation financière de Presstalis aujourd'hui? Comment ça se passe avec vos clients?
Eh bien, effectivement, une des premières décisions que j'ai dû prendre, ça a été de prendre 25% des revenus des éditeurs pendant 2 mois, ce qui était évidemment pas l'acte le plus populaire que vous pouvez prendre quand vous prenez une entreprise. Et donc là, il a fallu travailler sur un plan de retournement assez drastique, ce que je regrette, mais on n'avait pas vraiment le choix. Et on est en train de boucler un plan de financement qui est sur où les éditeurs vont amener l'argent et l'État va faire un prêt qu'on remboursera.
Alors, il y a un certain nombre d'éditeurs, les petits, les indépendants, qui disent Encore un plan de redressement. En 2012, Presstalis a déjà été au bord de la faillite. Il y a déjà eu un plan. Qu'est-ce qui nous prouve que cette fois-ci, ça va marcher?
Je comprends très bien qu'on puisse avoir ce genre de réaction. Il se trouve que la situation, enfin ça va pas vous rassurer si je vous dis ça, mais la situation en 2012 était moins mauvaise que la situation actuelle.
Ouais.
Et ce qui va changer, c'est qu'on va faire un plan beaucoup plus modeste et plus humble. Il se trouve que le management précédent avait mis en place une stratégie industrielle de diversification digitale et de systèmes d'information qui était très au-dessus des moyens de Presstalis, qui n'a pas apporté les résultats escomptés et qui a endetté terriblement la société. Donc là, l'objectif, c'est de viser profil bas, des plans qui ne sont pas très dépensiers, pas très coûteux, et évidemment, des résultats à obtenir très rapidement.
Ça veut dire se remettre, en fait, à distribuer des journaux, quoi.
C'est ça,
ce qui est le boulot de...
Voilà, distribuer les journaux et les magazines et ne pas oublier... les éditeurs, les petits et les moyens et les gros, et, ouais. et nos détaillants de presse.
Est-ce que vous n'avez pas des coûts de structure qui sont trop lourds? J'ai lu à droite à gauche que vous êtes encore soumis au fait d'embaucher des ouvriers du livre et qui ont parfois un statut qui peut être plus avantageux. Est-ce que si vous étiez une entreprise privée, peut-être que vous ne seriez pas dans cette situation?
Alors déjà, on est une entreprise privée, même si on est une coopérative. Y a beaucoup de choses qui tournent autour de la situation sociale. D'abord, on n'embauche plus, puisqu'on fait des PSE, donc ce serait plutôt l'inverse. Les conventions collectives ont été dénoncées il y a quelques années. Donc, les gens qui sont rentrés à des conditions moins favorables que celles que les conditions des années auxquelles vous faites référence. Donc, oui, évidemment, on a des coûts salariaux qui sont supérieurs au SMIC. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cas-là, et c'est pas pour ça qu'elles sont toutes dans la situation aussi mauvaise que Presstalis. Donc je crois pas qu'on puisse imputer l'ensemble des problèmes à Presstalis à ça.
Non, mais ce qui, en fait, la particularité de Presstalis et de la distribution de la presse en France, c'est qu'elle est régie par la loi, par une loi de 1947 qu'on appelle la loi Bichet. On va pas rentrer dans les détails, mais ça fait que vous êtes sacrément coincé. Pour faire évoluer l'entreprise, ce sont effectivement, c'est une coopérative, c'est un système qui est quand même globalement horriblement compliqué et probablement assez paralysant. Et encore une fois, est-ce que si on change pas la loi, est-ce qu'il y a des chances, sachant que le marché est pas en plus super porteur en ce moment sur la presse papier, est-ce qu'il y a des chances que ça s'arrange?
Non, il faut absolument changer la loi. Et effectivement, on se félicite que la ministre de la Culture ait annoncé un changement. Et d'ailleurs, on est tous sollicités les uns les autres pour donner notre avis sur la question. C'est vrai que vous avez raison, le marché de la presse est un marché qui a des grosses difficultés depuis des années, qui a eu la vague du digital, même si ça n'a pas touché beaucoup les magazines. Mais néanmoins, c'est un marché qui est entre moins 5 et moins 10% par an, ce qui fait qu'à 5 ans, c'est un marché qui peut perdre potentiellement la moitié. Mm-hmm. On a 70% d'invendus, c'est-à-dire vous envoyez 10 exemplaires, il y en a 7 qui vous reviennent en vendus. Il y a 700 points de vente qui ferment tous les ans et les détaillants de presse ne vivent pas très bien parce qu'ils sont, de mon point de vue, pas assez rémunérés. Ça, c'est décidé au niveau de la filière. On n'est pas maître de ça.
Oui, oui.
Donc, il est temps, effectivement, de remettre à plein un certain nombre de choses. Les couches successives de droit coopératif, droit concurrentiel, régulation métier, régulation juridique. Et puis, la loi Bichet, qui, dans l'esprit, assurait la pluralité des opinions politiques au départ, puis après la pluralité des titres. Ça, c'est effectivement un bon principe, mais il faut aller chercher aussi des relais de croissance qui ne mettent pas en péril les détaillants de presse, mais il faut aller chercher des relais de croissance qui existent. Je pense qu'ils existent.
Vous êtes deux actuellement sur ce marché en France, il y a vous et puis il y a les messageries lyonnaises de presse. Est-ce qu'il faut que vous fusionnez, sachant que vous avez à peu près 75% de part de marché, ou au contraire, est-ce qu'il faut plus de concurrence?
Ça, je crois que c'était un grand fantasme chez Presstalis d'arriver à absorber MLP. Il est possible que ce soit l'inverse maintenant, mais non, je pense pas du tout que ce soit le sujet. Je crois qu'on peut très bien être concurrent, on peut même être plusieurs concurrents, j'en sais rien. Mais je crois pas que ce soit vraiment le sujet, parce que il y a quand même une vertu à la concurrence, c'est que vous êtes obligé de vous remettre en question, d'améliorer votre service, de baisser vos coûts, de maîtriser tout ça. Si vous êtes en situation de monopole, il n'y a pas grand-chose qui vous oblige à faire mieux. Donc je crois que moi, je suis pour une concurrence qui soit simple, plus loyale, oui, et surtout dans un environnement beaucoup plus simple.
Merci beaucoup Michel Benbunan. Je rappelle que vous êtes la PDG de Presstalis.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et l'édito de la semaine, c'est avec Valérie Potin.
Et oui, et Valérie, cette semaine, on parle d'armes et de la NRA.
Oui, effectivement, parce qu'en l'espace d'une semaine, vous l'avez peut-être lu, mais le puissant lobby des armes a perdu quand même une vingtaine de partenaires parmi des grandes marques mondiales, des marques internationales et des marques nationales. On peut citer Delta Airlines, on peut citer United Airlines, MetLife qui est un assureur, ouais. Tous les loueurs de voitures, Avis, Hertz, Budget. D'autres, comme Bank of America, ont annoncé qu'ils allaient réétudier un petit peu, revoir leur relation avec les fabricants d'armes. Ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Et dans la plupart des cas, toutes ces marques avancent comme motivation la pression subie ou sentie en tout cas par leurs clients. Donc elles pratiquent tout simplement ce qu'on appelle un pragmatisme économique qui sera d'ailleurs sans trop d'incidence pour elles puisque la plupart du temps les accords qui les lient à la NRA sont plutôt des accords d'échange, échange marchandises. Elles ont accès aux fichiers des 5 millions de membres de l'association auxquels elles peuvent proposer un certain nombre de communications et de messages, enfin de tarifs préférentiels.
Le problème pour la NRA, ouais. C'est qu'il n'y a pas que ces partenaires-là qui se manifestent.
C'est effectivement, et c'est là un signal auquel il va falloir vraiment faire attention. Il y a eu un changement de comportement là, dans le courant de la semaine d'un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas partenaires. On peut parler des enseignes de distribution que sont Dick's Sporting Goods, qui est un peu le go-sport américain, ouais. Et surtout Walmart, qui ont toutes les deux annoncé qu'elles allaient revoir un petit peu leur manière de... Enfin, la diffusion d'armes, on va dire, dans leur magasin. Alors, on a par exemple Walmart qui va relever à 21 ans l'âge minimum pour acheter une arme. On a Dix de son côté qui annonce ne plus vendre d'armes semi-automatiques. Alors, vu d'ici, c'est vrai que ce sont des décisions qui ont quelque chose d'un petit peu surréaliste. Ouais. Mais il faut bien comprendre que là-bas, c'est un geste qui est fort. Et c'est surtout un geste qui risque cette fois d'avoir une vraie incidence sur le business de ces marques. Il y a aussi une autre attitude qui est importante à souligner, c'est celle de Gucci, qui, elle, a annoncé qu'elle allait... elle s'est rangée, en fait, aux côtés des lycéens hein, qui militent pour plus de restrictions en matière de vente d'armes. Elle a fait un don de 500 000 dollars à ses étudiants, ce qui n'est pas rien. Et du coup, ça devient la première marque à investir vraiment contre les intérêts de la NRA, là où tous les autres se livrent depuis une semaine à une résistance ou une opposition passive, on va dire.
Alors, à quoi on peut s'attendre là dans les semaines ou les mois à venir ?
Alors, c'est un petit peu difficile à dire pour le moment. On n'en est qu'au début de l'histoire, hein, finalement, avec une situation qui est assez inédite aux États-Unis, où on a d'un côté ce lobby surpuissant qui tutoie et qui finance accessoirement le pouvoir, donc qui se sent un petit peu intouchable, qui reste campé sur son bon droit, à savoir ce deuxième amendement de la Constitution, et puis qui se moque un petit peu des considérations éthiques et morales. Et de l'autre, on a justement ce mouvement populaire dont on ne sait pas encore finalement quelle en est l'ampleur et quelle en est la profondeur. Ce qui fait que on ignore encore si il finira par faire upshit ou plutôt pan, voire boom, dans la tête de la NRA.
Merci beaucoup Valérie Potin.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et le Zoom du jour autour de la nouvelle publicité pour Perrier Finbulle. On en parle avec Benoît de Florian. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Chief Strategy Officer chez Ogilvy Paris, agence qui a réalisé cette campagne. Et Valérie Sacriste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence, chercheur en sociologie des médias et de publicité à l'Université Paris Descartes. Benoît de Florian, c'est quand même une drôle d'idée. On en parlait il y a quelques temps avec Frédéric, de se faire comme ça un remake d'une pub qui a 30 ans. Parce que faut le dire pour ceux qui n'auraient pas vu cette publicité. La nouvelle publicité de Perrier Finbulle, c'est un remake d'une publicité que vous aviez faite, cette même agence d'ailleurs, il y a 28 ans, je crois, où on voyait un lion et une jeune femme qui escaladaient une montagne et se battre à coups de rugissement pour cette bouteille de Perrier. Aujourd'hui, c'est la même chose avec une petite fille et un lionceau. Pourquoi ce choix ? C'est extrêmement étrange.
En fait, c'est assez logique. Ce qu'on voulait dire avec ce film, c'est que dans Perrier Finbulle, il y a des petites bulles, mais dans chaque petite bulle, il y a tout l'extraordinaire de Perrier. Et quand on réfléchit, l'extraordinaire de Perrier, il y a une chose que Perrier a fait d'extraordinaire, c'est justement ce film de la Lyonne des années 90. Et dans le cerveau des créatifs, Alexandra Hoff et Julien Bredontio, a germé l'idée, tiens, pourquoi on referait pas ce film, mais avec une petite fille et un lionceau. pour dire les petites bulles, ça disait l'extraordinaire et c'était une façon formidable de dire la chose.
Frédéric.
Il y a 28 ans, je crois que vous étiez sur le tournage du du film original. Quoi.
C'était un de mes premiers films, effectivement. Et on est parti même dans le même pays, c'était en Afrique du Sud. Là, on est retourné en Afrique du Sud pour tourner le film.
D'accord, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un peu un risque? Alors moi, je pose un peu la question aux deux, que finalement, ce soit un peu, que ça montre aussi qu'il n'y a pas tant d'idées que ça dans le produit ou dans sa promotion, parce que 28 ans après, aussi grand soit le film, parce que je crois que c'est le dernier Grand Prix français à Cannes, au Cannes Lions, donc c'est un film mémorable, mais que bon, on ne pouvait pas faire autre chose.
Voilà. Vous êtes en train de les accuser de manquer d'idées, là, je crois.
Je commence et je vous passe la parole. Je crois que c'est un hommage, en fait. C'est un magnifique film. Ça fait vraiment partie de l'histoire de la marque. Et c'est un clin d'œil de cette marque à un des films qui l'a fait. Et derrière, c'est pas exactement le même remake, comme vous l'avez vu. Ouais, il y a des plus petites bulles. Donc c'est un jeu. Et quand on voit le film à l'écran, comme nous d'ailleurs, quand on a vu l'idée que les créatifs nous ont présenté, quand le client a vu l'idée qu'on lui présentait, tout le monde s'est dit c'est super, il faut le faire, c'est génial, c'est allons-y.
Valérie Sacrest.
Oui, alors moi je suis pas trop d'accord avec votre idée du voilà, c'est du remake, parce que c'est vrai qu'on l'entend souvent, c'est un manque de créativité. Alors c'est vrai que ça peut être amusant, un manque de créativité chez des publicitaires, c'est un peu un oxymore. mais non, au contraire, je pense que c'est plutôt une bonne stratégie. Alors pas forcément pour les raisons avancées, parce qu'on est dans un espace de communication où on a un flux important d'informations, de discours, etc., où les individus vraiment dans cette société commencent à être saturés de tous ces discours. Et c'est plutôt le fait de jouer sur le remake, donc de revisiter une publicité qu'on a déjà vue, c'est plutôt rassurant, parce que ça fait une pause dans le temps et ça joue sur l'effet, évidemment, mémoire. Donc non, c'est pas un manque de créativité. Je dirais même que c'est plutôt véritablement original. Original parce que, justement, on revisite quelque chose à l'aune de la société d'aujourd'hui. Et justement, en ne se lançant pas dans cette espèce de surenchère qu'on voit souvent dans la communication publicitaire, à toujours avoir une nouvelle idée, une nouvelle idée, une nouvelle idée, au point qu'on ne sait plus quelle idée ensuite les marques ou les concepts que les marques veulent diffuser, et ce que veulent dire les marques en fait aux consommateurs.
Vous dites c'est original et en même temps c'est très à la mode, parce que bon, ils ont peut-être pas poussé le truc à ce point-là, mais il y a d'autres marques qui ont fait des remakes. Je pense à Peugeot par exemple. Il y en a d'autres qui ont ressorti de vieux personnages comme Lustucru l'a fait il y a quelques années déjà. Il y a une véritable rétromania là.
Oui, alors oui, il y a une rétromania, mais qu'est-ce que ça veut dire cette rétromania? En fait, on a tendance à lier cette rétromania à une espèce d'effet nostalgie. Donc la nostalgie, c'est quoi? C'est l'effet mémoire, mais en plus on regrette un temps qu'on a vécu. Alors moi, l'effet nostalgie sur les années 90 ou sur d'autres années, je n'y crois pas vraiment. Je pense qu'il joue sur le remake, c'est plutôt l'effet mémoire. Donc on joue sur le souvenir. Mais ça ne veut pas dire qu'on va regretter forcément les années 90, mais ce qu'on aime se souvenir, parce que justement ça permet l'effet mémoire de s'ancrer dans une société où tout va vite, vous voyez. Et donc la publicité participe d'ailleurs, parce que c'est un produit culturel, donc elle nous aide à nous souvenir. Donc en jouant sur justement le passé, c'est pas le côté nostalgique, oh c'était avant, longtemps. Non, c'est vous vous souvenez, on vous disait ça, on est toujours là et c'est rassurant.
Moi, je me demandais si ça privait pas quand même votre publicité d'un certain public, parce qu'en fait, il y a une référence très marquée à une pub des années 90, Benoît de Florian, et toute la jeune génération, elle a pas cette référence en fait.
Je suis pas sûr. Il y a un truc qui s'appelle le web, et il y a beaucoup de choses qu'on regarde. Et pour compléter la réponse, moi, je pense qu'il y a un truc tout bête en fait. Quand vous voyez ce film, ça fait plaisir. Vous rappelez effectivement, mais c'est un film qui vous a marqué, que vous avez pris plaisir à revoir, et voir un, comme on va voir un Alien 2, un Alien 3, un Alien 4, un Alien, etc., Covenant.
Vous avez l'intention de dupliquer, là encore?
Je pense que ça sera compliqué, mais si un jour des créatifs viennent nous voir en ayant une idée géniale de l'Alien numéro 3, pourquoi pas?
Frédéric.
Et alors, c'est aussi une campagne qui a comme particularité, à l'heure du digital, d'être, on la verra évidemment sur le web, mais généralement, il y a plein d'activations numériques, digitales en même temps, et là, non, c'est un choix aussi. C'est pour rester fidèle aux années 90?
Non, je crois que le choix, c'est de se dire... parce qu'on avait réfléchi, il y avait plein d'idées. Mais en vrai, la vraie idée, c'est de justement de refaire ce film avec un regard quand même très frais et très différent. Et c'est un objet film, donc on a refait un objet film, tout simplement.
Valérie Sacris, qu'est-ce que ça nous disait, la pub des années 90, sur le virage publicitaire de l'époque?
Bon, alors en fait, pour essayer de vous expliquer de façon succincte, il faut revenir dans le temps, dans la publicité. Alors, il faut revenir dans le temps et d'abord dans la société des années 90. Ces années 90, c'est ni les années 80 ni les années 2000. C'est-à-dire, c'est ni l'optimisme des années 80 et cette insouciance, ni le pessimisme et les inquiétudes des années 2000 dans lesquelles on vit encore. Et donc, en fait, c'est une société, comme le dit le montre un sociologue qui s'appelle Danilo Martuccelli, on entre dans les années 90 dans une société singulière, où les individus commencent à affirmer qu'ils en ont marre, qu'ils sont fatigués d'être mis dans des cases sociales et cherchent justement à vivre leur vie comme ils l'entendent et pour atteindre la justesse d'eux-mêmes. Et la publicité va montrer ça. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la pub des années 70, elle vendait du standing, un statut social. Dans les années 80, là, on est dans la pub spectacle, c'est Perrier d'ailleurs, c'est fou. On est dans l'insouciance, qui marque les années d'insouciance. Et dans les années 90, ben justement, et Perrier d'ailleurs une étude de cas assez intéressante d'un point de vue sociologique, parce que justement, c'est plus Perrier, c'est fou dans les années 90. On c'est fini les années d'insouciance, on est dans de l'eau, de l'air. La vie. Et donc, on est dans un discours beaucoup plus serein qui met en avant quoi ? Ben justement, l'authenticité et la force d'être soi. Donc, on est dans l'authenticité. Donc là, on est véritablement dans une publicité qui joue sur ce qu'on appelle l'identité personnelle et on joue sur la carte du bien-être, en fait.
Merci beaucoup, Valérie Sacris. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Paris Descartes et Benoît de Florian, Chief Strategy Officer chez Ogilvy Paris.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Et pour finir, nous sommes avec Julien Henri Maurice, directeur marketing et digital de Bazar Chic. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Bazar Chic, c'est le troisième site de vente privée sur Internet et sur le mobile en France, positionné plutôt sur le haut de gamme. Et vous avez créé, il y a un an, un laboratoire d'intelligence artificielle. À quoi ça sert? Comment ça marche?
Alors, ça fait même pratiquement 2 ans. Ça sert tout simplement à avoir une gouvernance de data et à une connaissance client qui est améliorée. Et ça sert à mieux du coup connaître son client et de pouvoir le suivre tout au long de sa vie, d'avoir des bons produits et des bons services par rapport à ses besoins. De ça, on en est venu à une stratégie très orientée autour des points de contact qui se sont démultipliés dans la stratégie de communication. Et grâce à cette meilleure connaissance client, on a pu affiner les ciblages et les communications ciblées.
Et qu'est-ce que vous en faites après toute cette data? À quoi est-ce qu'elle vous sert concrètement?
Elle nous sert à, comme je vous le disais, à mieux vendre. C'est aussi l'idée d'avoir une stratégie sur la data, c'est de pouvoir en faire un succès pour la gouvernance économique. C'est-à-dire que c'est une data qui est au service du chiffre d'affaires et de la croissance.
Et donc, ça se mesure alors, j'imagine?
Absolument. Quand on fait des tests sur des parties spécifiques, que sont sur l'emailing, sur le mobile ou sur d'autres choses, à chaque fois, on fixe des critères de succès et on voit, on fait un A/B test, comme on dit, et on voit lequel fonctionne le mieux. Et donc, sur l'intelligence artificielle, on voit systématiquement que ça surperforme. On a fait des tests où ça montrait que sur des campagnes d'emailing, par exemple, ça générait plus de 87% de chiffre d'affaires par rapport à ce qu'on faisait précédemment.
Ah oui, quand même.
Donc, il y a une vraie chose à faire.
Alors, j'ai vu que vous misiez aussi beaucoup sur un chatbot, un robot conversationnel. C'est important pour vous de pouvoir communiquer directement comme ça avec vos clients? Ça change les choses?
Je ne sais pas si c'est moi qui pense que c'est intéressant ou si c'est les clients qui sont en demande. Ah. La réponse, c'est plutôt, je pense que c'est eux qui sont en demande et que donc c'est la marque qui doit aller par rapport à ça. Oui, c'est important parce qu'il y a clairement... les choses se dématérialisent fortement et de ce point de vue-là, les clients en demandent une réactivité d'une 24/7, comme on dit, que ce soit notre temps réel. Et donc, ils sont demandeurs de ça. Donc, ça participe à la stratégie de communication de toujours pouvoir se rapprocher avec son client. Et pour se rapprocher, on souhaite avoir un engagement qui soit plus fort. Et donc, ces outils-là, qui sont un peu nouveaux dans le digital, participent à une satisfaction finalement. Et c'est ce qui va participer à avoir une préférence de marque qui se travaille sur des marchés qui sont tous, on le sait, je pense, très concurrentiels. Donc, ça nous permet de pouvoir toujours être au plus proche et par rapport à là où ils sont. Encore une fois, quand on parle data, quand on parle usage, quand on parle intelligence artificielle ou chatbot, l'idée, c'est de partir des usages des consommateurs et d'y mettre la réponse en tant que marque pour exister et pour trouver le meilleur moyen de communication avec ses clients et ses consommateurs.
Merci Julien-Henri Maurice. Je rappelle que vous êtes le directeur marketing et digital de Bazar Chic. Merci aussi à Frédéric Roy d'avoir été à mes côtés, rédacteur en chef de CB News. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.